notre Père, nous te rendons grâce de ce que tu es merveilleux. Et nous voulons être émerveillés, en particulier à la lecture et à l'écoute de ta parole. Nous voudrions voir Jésus-Christ dans sa gloire et dans sa splendeur. Et accorde-nous, en réponse à cette écoute, à cette lecture, accorde-nous des cœurs disposés à vivre de manière différente, d'une manière digne de ton appel. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles, si vous en avez, ou peut-être la Bible devant vous, dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2. Et je vais lire les versets 6 à 16. Je vais lire dans la version second 21. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs. Mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Vous avez probablement relevé ces contrastes tout au long de ce passage. Et je vous suggère le plan suivant. Une sagesse jusque-là cachée, une sagesse par l'Esprit révélé. Comment comprendre ce passage? Si nous étions les Corinthiens et nous entendions la lecture de ce passage, comment faudrait-il repartir? Avec la manière de penser suivante, nous les chrétiens, nous sommes des hommes mûrs, matures. Nous sommes au bénéfice de la révélation de Dieu, nous parlons un langage spirituel. En tant qu'hommes dirigés par l'Esprit, nous pouvons juger de tout et nous sommes nous-mêmes jugés par personne. À l'inverse, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, en tant qu'hommes naturels, ils n'acceptent pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Ils ne comprennent pas ce qui vient de Dieu. C'est une folie pour eux. Est-ce que c'est ce qu'on devrait retenir, entendre de ce passage ? En se disant, qu'est-ce que ça fait du bien d'être chrétien quand même? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans la vérité? Et si quelqu'un à la sortie devait vous dire, mais quelle arrogance quand même! Bien, vous seriez en train de vous dire dans votre esprit, le pauvre, la pauvre. Ça confirme ce que je viens d'entendre. C'est ça qu'il faudrait se dire au terme de cette lecture. Je ne pense pas que ce soit le message de ce texte, et on va tenter de le vérifier, et pourquoi ça ne peut pas être le cas. Mais avant d'aller plus loin, ce serait utile de soulever la question de l'arrogance. Est-ce que c'est arrogant de penser que nous avons raison et que quelqu'un d'autre a tort? Est-ce que dans un souci d'humilité, on devrait dire au contraire que tout le monde a raison? Tout le monde est sur le même plan d'égalité au niveau des pensées et au niveau des religions. Toutes les religions se valent. Idem pour l'athéisme, tout se vaut. Dans la position d'une personne athée, je trouve intéressant cette citation d'André Comte-Sponville. Pourquoi toutes les religions seraient-elles également intelligentes, intéressantes, profondes? On s'est étonné que le pape Benoît XVI, ça remonte à quelques années, dans son discours de Ratisbonne, mette le christianisme plus haut que l'islam. La belle affaire, serait-il pape autrement? Et quel musulman qui ne mette l'islam plus haut que le christianisme? Un peu plus loin, méfions-nous du politiquement correct, du consensus mou, de la tyrannie des bons sentiments. Tous les hommes sont égaux, en droit et en dignité, mais toutes les idées ne se valent pas. Le droit d'être contre fait partie des droits de l'homme. On reviendra par la suite sur la question de l'arrogance, parce qu'elle est bel et bien dans ce passage, à mon avis. Mais pour l'instant, reconnaissons qu'il est tout à fait légitime de penser que nous avons raison et que quelqu'un d'autre a tort. Sans nuancer l'égalité en droit et en valeur. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, même une personne qui affirme que toutes les religions se valent pense qu'elle a raison et qu'une personne qui ne pense pas comme elle a tort. Mais on en revient à la question posée à ce texte. Avec quel état d'esprit est-ce que nous allons repartir ce matin? Est-ce qu'il faudrait repartir avec sentiment de supériorité par rapport aux autres? Si oui, il y a des problèmes de taille avec une telle lecture. Pour commencer, écoutez ce que l'apôtre Paul écrit juste après notre texte. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre? Et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? » On découvre à plusieurs endroits dans cette lettre ce sentiment de supériorité qu'avaient les Corinthiens et par les termes que l'apôtre Paul utilise, que ce soit enflé d'orgueil, on découvre justement la question de l'arrogance et la répétition de sage, spirituel, alors que l'apôtre Paul invite à l'humilité et à l'amour, on réalise qu'il y a bel et bien un problème d'arrogance chez les Corinthiens. Et donc la lecture de tout à l'heure, elle ne collerait pas du tout avec cela. Alors comment le comprendre? Comment comprendre ces contrastes qu'il dresse? Une sagesse jusque-là cachée. Jusqu'ici dans la lettre, l'apôtre Paul a tapé sur la sagesse, ou plutôt la sagesse telle que les hommes, les humains la voient. Notez par exemple que dans le chapitre 1, il ne recourt pas à la sagesse du langage. Il cite le prophète Ésaïe qui annonce que Dieu va faire disparaître la sagesse des sages. Il a affirmé que Dieu a démontré la folie de la sagesse du moment, que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et au début du chapitre 2, il affirme qu'il n'est pas venu avec une supériorité de langage ou de sagesse pour témoigner au sujet de Dieu. Sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, afin que leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et donc, après avoir cassé cette sagesse, il reconnaît au verset 6, « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs. » Mais une sagesse différente au verset 7, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Et qu'est-ce qui témoigne que cette sagesse était cachée, mystérieuse? Après tout, quand on pense à différents peuples, on pense aux Babyloniens, aux Grecs, aux Égyptiens. Est-ce qu'ils n'ont pas fait preuve de sagesse dans l'histoire, dans tout ce qu'ils ont développé? Est-ce qu'ils auraient manqué quelque chose d'essentiel? Ce qu'il dit ici ne remet pas en question la richesse de cette histoire, mais il y a bel et bien quelque chose qui a été manqué, quelque chose qui a été dévoilé en la personne de Jésus. Même les grands à l'époque de Jésus n'ont rien vu venir. Au verset 8, cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Pilate, le gouverneur romain, Hérode, le tétrarque, Caïphe, le grand prêtre, le Sanhédrin, pour tous, ils n'ont pas vu à qui ils avaient affaire. Mais en tant que chef placé à la tête du peuple, on aurait imaginé qu'ils étaient plus sages que les autres. Pas du tout. Pour eux, selon leur sagesse, la meilleure chose à faire vis-à-vis de Jésus, c'est de se débarrasser de lui parce qu'il représente une menace, de le faire crucifier. La véritable sagesse leur était donc cachée, ce qui n'enlève rien à leur responsabilité au verset 6. Et l'apôtre Paul appuie le fait que cela leur était caché par la citation du prophète Ésaïe. Comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. La grande ironie de ce moment-là dans l'histoire, c'est qu'en voulant se débarrasser de Jésus, de se débarrasser de celui qui gêne, ils sont en train d'accomplir le projet de Dieu. Et la sagesse de Dieu est en train de se dévoiler à la croix. Ce projet préparé longtemps à l'avance, notre destinée éternelle rendue possible par cette œuvre à la croix. Et la question que l'apôtre Paul soulève par ces contrastes, c'est: est-ce que vous reconnaissez cette sagesse? Est-ce que vous l'avez reconnue dans l'histoire? La sagesse des hommes qui désirent s'élever, la sagesse de Dieu qui s'abaisse en la personne de Jésus pour mourir à la croix, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux? Il faut reconnaître que parfois, on peut avoir le langage de l'abaissement alors que les motivations sont celles de l'élévation. Prenez par exemple les raisons évoquées pour les prochaines campagnes les présidentielles de 2017. Alors on va reconnaître que c'est une tâche avec une lourde responsabilité et qu'il faut bien que quelqu'un gère autant de dossiers. La tâche n'est pas facile. Sans vous dire qui a dit quoi, je vais simplement en lire trois. Je ne peux pas me défausser moralement vis-à-vis des Français. Un autre, candidat par devoir, pas par envie. Et un autre sur les mises en place de différentes formations. Je n'ai pas le choix. Parce qu'en 2017, il ne restera plus que Nicolas et moi. C'est intéressant de relever dans ces affirmations, le devoir, le sacrifice de soi, le don de sa personne, alors que de toute évidence, il y a un désir en même temps d'être élevé. Et si c'est le cas pour eux, c'est certainement le cas pour nous aussi, n'est-ce pas? On peut avoir le langage de l'abaissement, alors qu'au fond, il y a le désir d'être élevé. Quand je reviens constamment sur moi et sur la perception que telle ou telle personne a de moi, quand je reviens même sur les erreurs que j'ai faites, est-ce que c'est finalement pour une repentance plus profonde, plus sincère, ou pour être vu comme quelqu'un d'humble? Quand dans une conversation je m'intéresse à quelqu'un d'autre, je lui pose des questions, est-ce que c'est vraiment pour son encouragement? Pour l'encourager à tourner les regards vers Christ, ou est-ce que c'est pour être vu comme quelqu'un qui a le souci des autres, quelqu'un qui est désintéressé? Il faut reconnaître que nos motivations, elles sont souvent entachées, ambiguës. Et cette sagesse, selon Dieu, elle peut nous être cachée. Ça ne signifie pas qu'il faudrait s'abstenir de toute parole, de toute intervention, de toute prière, tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir ces motivations-là. Mais reconnaître qu'il nous faut aspirer à des motivations plus saines, plus belles, inspirées par son esprit, sa sagesse. Et maintenant, on passe à une sagesse par l'esprit révélé. Comment est-ce qu'on va définir cette sagesse de Dieu? Comment est-ce qu'on va l'obtenir, la recevoir? Est-ce qu'elle est due finalement à une meilleure perception? Jusqu'à Jésus, en fait, les gens étaient complètement à côté de la plaque, mais à partir de là, les gens sont un peu plus éveillés, une intelligence qui nous serait propre. Il ne faut pas aller loin dans le texte pour voir que d'où vient cette sagesse. Verset 10, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélée par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est bien par l'esprit de Dieu que nous allons comprendre cette sagesse, la percevoir. Et dans le verset suivant, l'apôtre Paul l'illustre. On rigole avec ce genre de remarque. « J'ai lu dans tes pensées. Je savais ce que tu allais dire. » Alors que précisément, justement, les pensées de quelqu'un restent cachées, normalement. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Il y a parfois des moments où moi-même, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. C'est le grand blanc. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi mémoriser des mots de passe? Pourquoi mémoriser des codes? Parce que justement, par sécurité, on veut les garder cachés. Et c'est au moment où on les écrit que ça devient dangereux. Notre esprit connaît nos pensées les plus profondes et elles ne sont pas à dévoiler aux autres, à moins d'être communiqué. Même chose avec l'Esprit de Dieu. Il est le seul à connaître la pensée de Dieu et à vouloir la révéler. Et dans le verset 12, Paul oppose l'Esprit du monde à l'Esprit de Dieu. Et quand on a la situation des Corinthiens en tête, quel genre de contraste est-ce qu'on peut faire? Pour l'Esprit du monde, ce serait tout à fait légitime de vouloir jouer des coudes dans l'Église pour être vu comme le disciple de tel ou de tel, ou d'être le meilleur avec tel ou tel don. Imaginez une autre situation, un plateau de télé-réalité où chacun voudrait obtenir la dernière place et mériter cette victoire. Ça pourrait se faire en montrant les signes d'humilité devant les téléspectateurs, ou alors un coup de colère, une vérité bien affirmée, des critiques ou au contraire un souci de l'autre, mais le but pour chacun serait d'obtenir cette première place, mériter cette première place. À l'opposé, l'Esprit de Dieu nous aide à percevoir que tout ce que nous avons est un cadeau. Verset 12, cet Esprit nous aide à connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Tout l'inverse d'un sentiment de mérite ou d'élévation. Je me souviens d'une discussion avec quelqu'un qui vient ici au culte du matin et qui affirmait « Je ne suis pas digne de tous les cadeaux que Dieu me fait. » Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire une chose pareille? N'est-ce pas dans la mesure justement où on saisit que tout ce que nous avons est quelque chose que Dieu nous donne par grâce et non pas sur la base de nos mérites ou de nos efforts? Et celui qui nous permet de réaliser cela, c'est l'Esprit. Et c'est l'occasion de nous demander si cette reconnaissance, elle est présente dans nos prières, quand nous prions. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience de quelque chose qui nous a été donné par Dieu? Un bon moyen de savoir si on considère ce que l'on a ou ce que l'on vit comme une grâce ou un dû. Au verset 13, l'apôtre Paul revient ensuite sur sa prédication. Il a déjà dit, sa prédication et leur conversion ne reposent pas sur une sagesse humaine, une capacité de persuasion. Il n'a pas cherché à les intimider, par exemple, en utilisant la force du langage. sa personnalité, jouant sur leurs craintes ou leur orgueil pour les manipuler. L'apôtre Paul et les autres apôtres ne veulent pas et ne peuvent pas s'appuyer sur leurs capacités. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Les choses de l'esprit doivent être expliquées sur la base de cette révélation de l'esprit. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est où en sont les Corinthiens ? Où en sont-ils dans leur compréhension ? Après tout, l'apôtre Paul va dire au chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous ?» Dans un sens, il peut dire qu'ils ont tout pour être inspirés par l'Esprit et donc au bénéfice de cette sagesse. Mais il dit en même temps, au début du chapitre 3, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. » Le paradoxe, c'est qu'ils sont spirituels et en même temps, ils ne sont pas spirituels. Ils recherchent cette sagesse, mais en même temps, ils passent à côté de cette sagesse. Ils pensent faire partie des initiés, de l'élite, mais de toute évidence, ils manquent le mystère révélé en Christ. Le fait que c'est précisément par la croix que Dieu triomphe. Et avec ce paradoxe, on trouve, à mon avis, la raison pour laquelle l'apôtre Paul appuie les contrastes, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme naturel, on pourrait dire l'homme livré à lui-même, celui ou celle qui n'a pas cet Esprit de Dieu à l'œuvre en lui. Il n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit, ce qui dit sa responsabilité. C'est une folie pour lui, pour elle. Perspective renversée, ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu, une incompréhension. À l'opposé, versets 15 et 16, l'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Par ces contrastes, l'apôtre Paul pousse à un positionnement. Comment est-ce que nous allons nous positionner ? Soyez dirigés par l'Esprit et non par la sagesse humaine. Peut-être une petite question par rapport à cette expression « juge de tout et n'est lui-même jugé par personne ». Est-ce que c'est en fait la prétention qui fait surface chez l'apôtre Paul et finalement lui-même se prend au jeu de se placer au-dessus de tout ? Ça ne peut pas être ça. Dans le chapitre 4, versets 1 à 3, il dit « Ainsi donc on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. » Ça ne peut pas être se placer en tant que juge. Quant à sa position, il est serviteur, esclave de Jésus-Christ. Et il ne peut même pas se juger lui-même. C'est Christ qui va le juger. Alors qu'est-ce que ça veut dire, juge de tout ? Il n'est lui-même jugé par personne. Il y a peut-être un type d'affirmation qui peut nous aider à voir de quoi il peut s'agir. Quelqu'un qui dirait, par exemple, que tel texte, chacun peut le lire à sa façon. Moi, je le comprends comme ça, tu peux le comprendre autrement, on va en rester là, chacun peut le saisir à sa façon, il n'y a pas une vérité à lire sur la base de ce texte. Dans la mesure où il y a un esprit qui est à l'origine de ces écritures, au-delà des textes qui sont difficiles à comprendre et où parfois il y a des positionnements différents, mais où on pense chacun qu'il y a bel et bien une vérité dans le texte. Au-delà de cela, si cet esprit l'a inspiré, si cet esprit a permis qu'il soit rédigé, alors il va falloir se positionner. Il va falloir comprendre tout ce que Dieu nous a révélé. Et dans le contexte des Corinthiens, c'est apprendre à évaluer certaines convictions en étant fondé sur la pensée de Christ au bénéfice de la révélation de l'Esprit. Et dans ce sens-là, on n'a pas à craindre quelconque jugement. Qu'est-ce que ça pourrait signifier pour nous ? À quoi quoi est-ce que ça pourrait ressembler. Je me souviens d'une conférence que j'avais entendue sur cette lettre aux Corinthiens, justement. Et je crois que jusque-là, globalement, j'avais une certaine perception de l'Évangile. L'Évangile, c'est en gros le ABC de la vie chrétienne. Et après, une fois qu'on a saisi ces éléments de base, la mort de Jésus à la croix, la résurrection, tout ce qui atteste de sa justice et ce qu'il a fait à notre place, eh bien, on va passer au DEF qui est beaucoup plus fondé sur l'effort, sur la capacité à mettre en place une discipline, être un bon chrétien et être meilleur que les autres peut-être même. Quelle erreur. La personne qui parlait montrait comment chaque problématique des Corinthiens était liée à la compréhension de l'Évangile. Ce n'est donc pas un ABC où ensuite on partirait sur quelque chose beaucoup plus fondé sur l'effort humain. Si c'est vrai qu'il y a des efforts, si c'est vrai qu'il y a une discipline à mettre en place, s'il est nécessaire de poursuivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, au cœur et présent à chaque moment de notre vie, il faudra cet évangile. Il faudra cette compréhension de l'œuvre de la croix. Tout doit tourner autour de la croix, comme le repas que l'on a pris tout à l'heure. Sinon, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul affirmerait n'avoir rien su parmi les Corinthiens que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié ? Chapitre 2, verset 2. Et sinon, pourquoi constamment les ramener à l'Évangile dans toutes leurs problématiques ? Ce contraste entre sagesse humaine et sagesse de Dieu sera toujours présent. Et il va falloir nous positionner à chaque fois. Selon la sagesse humaine, j'obéis et je suis accepté par Dieu. Selon la sagesse de Dieu, je suis accepté et c'est pourquoi j'obéis. Selon la première, j'obéis pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Cette guérison, ce travail, cette chose qui me ferait le plus grand bien. Et selon la seconde, je lui obéis pour l'obtenir lui, pour lui ressembler et trouver avant tout mon plaisir en lui. Selon la première, quand les choses vont mal, je suis en colère, soit contre Dieu ou soit contre moi. Comme les habits de Job, je pense qu'une personne qui vit quelque chose de difficile a dû faire quelque chose pour passer par là. Selon la seconde, quand les circonstances vont mal, je lutte, c'est difficile, mais je sais que Dieu va démontrer son amour de Père dans ma situation. Et il va falloir à chaque fois faire la différence entre cette sagesse humaine et cette sagesse de Dieu.